Bonjour à tous, bienvenue sur le 80e épisode de Comics Weekly.
Bon anniversaire.
Et bonne année en février aussi.
Non, je pense qu'on devrait fêter. On devrait fêter tous les Comics Weekly comme un événement.
Ouais. Ouais,
parce que c'est un miracle en soi qu'on arrive à les faire.
Cet événement, quand même, à chaque fois, marqué d'une pierre blanche.
Et d'ailleurs, ça va être tellement événementiel et tellement festif qu'on a décidé de peindre cette pierre en verte.
Oui. Comme ça, ça sera marqué d'une pierre verte.
Bonjour les intros de merde. Bonjour à tous, donc.
En fait, l'intro était mieux réussi quand on l'enregistrait pas, quoi.
Oui, c'était ça, en fait.
Avant le podcast, on a fait à peu près 15 intros différentes. On parlait de choses super passionnantes, et puis là, bah, on a plus rien à dire.
Environ
donc
8 minutes.
On va peut-être se quitter, au fait.
Ouais, voilà.
Bon, ou bien on attaque directement les reviews, quoi.
Allez, allez, bye bye, check it, pass, bye. Et check it, regardez le programme sur le site. Et c'est la fin du podcast.
Remettez-les dans l'ordre.
Donc, avec moi, vous aurez reconnu les voix de Nono, qui revient parmi nous après une longue absence.
Oui. Bah oui, voilà, c'est les aléas de la vie. Je dirais, la vie nous emmène dans certains recoins où il ne fait pas bon d'être seul.
Oh, tu me fais penser à Simon Monceau, le présentateur de Ça va se savoir.
Oui.
Qui faisait toujours des conclusions comme ça, à l'emporte-pièce, qui voulait rien dire. Ah.
Mais je n'ai pas d'emporte-pièce.
Oui, mais tu as son talent. Ça vaut tous les emporte-pièces du monde.
L'épisode qui est bien barré déjà. Donc Nono, tu nous as avoué la véritable raison pour laquelle tu n'as pas enregistré.
Oui, c'est voilà.
Démasque-toi devant tout le monde.
Je vais être honnête, c'est tout simplement parce que je n'avais pas envie de souhaiter la bonne année aux auditeurs. Donc j'ai décidé de ne pas faire de podcast durant tout le mois de janvier. Et là, vu qu'on est début février,
c'est une très bonne résolution. T'as bien fait.
Ma seule résolution de l'année, ça a été de ne pas dire bonne année.
Donc, c'est ça parce que tu l'as déjà dit trois fois là.
Non. Non.
Donc c'est une non bonne année à Nono.
Voilà. Je vous souhaite à tous une année exécrable.
Donc vous aurez aussi reconnu la voix de Mister Onevani.
Ouais, et je vous souhaite une année bien pourrie.
Ah toi aussi. Mm. Ah bah c'est une maladie, c'est contagieux. Et la voix de Sam aussi.
Bah non, moi je suis gentil, hein, je vous souhaite une bonne année.
Oh le fail focus ici.
Ouais. Mais pas dans les comics.
Non seulement ça lit du Morrison et ça aime ça, et puis ça souhaite une bonne année. N'importe quoi.
On va en avoir besoin.
Moi Sam, je te souhaite une bonne année pleine de Matt Fraction.
Ah t'es vraiment un salopard.
Ouais, je sais.
Bon, bah, je ne sais même pas comment passer aux news après ceci.
Bah, si, regarde. En parlant de salopard.
Oui, donc Sam, tu disais, en parlant de salopard, donc nous t'écoutons.
En parlant de salopard, DC Comics a annoncé cette semaine l'ignominieuse news selon laquelle ils allaient faire 7 mini-séries basées sur Watchmen.
Ouais.
Et on leur envoie tous des bousins et du purin. Voilà.
Non, alors ouais, moi, ou un désolé, joli doigt en l'air avec un beau fuck-off aussi. Ça marche. Ouais.
Bah écoute, alors, je suis peut-être le seul à m'en foutre, mais honnêtement, qu'ils fassent une préquelle à Watchmen, j'ai envie de dire... Si on n'est pas intéressé, on la lit pas, ça changera pas le chef-d'œuvre qu'est Watchmen. Ouais. Honnêtement, je m'en fiche. Ça me,
c'est un peu comme Bunny, sauf que d'un autre côté, bah ça va pas me déplaire d'aller voir certaines mini-séries. Je vais pas me taper les 7, c'est sûr. Mais certaines mini-séries, style sur Rorschach ou sur le comédien,
ouais, en plus.
Qui m'intéressent et que j'irai voir le premier. Si c'est bien, ça peut être bon. Ça peut.
Ouais, ils ont sorti les gros noms quand même.
Ouais, oui, bah, honnête. Quand même,
non mais je trouve qu'il y a une indignation un petit peu excessive par rapport
c'est ça,
à
ça. Mais c'est ça qui est vraiment, je trouve, complètement con, de mettre des équipes créatives aussi bonnes sur un truc qui est pas intéressant. Quoi.
Moi, le
déjà
projet
qu'il y a un foutage de gueule par rapport au lecteur, par rapport à Alan Moore, par rapport à Dave Gibbons. Mais en plus, pourquoi ils nous mettent pas ça sur des titres réguliers?
Moi, c'est sur des mini. Donc les.
Mais même
les
sur des mini plus intéressantes que ça.
Bah moi je suis désolé, lire une mini sur Rorschach avec Azzarello et Liber Mero, moi ça me botte.
Mmh. Bah, moi pour moi ce qui me gêne dans le projet c'est pas le fait qu'ils fassent des préquels à Watchmen, de toute façon ça fait longtemps qu'ils en parlent. De toute façon fallait bien que ça sorte un jour ou un autre. Le problème c'est de faire 7 mini-séries d'un coup quand même.
Ouais.
Ça c'est énorme.
Ouais, ça fait beaucoup.
C'est vraiment là
ça
c'est
fait, on veut votre pognon.
Mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire que s'ils avaient fait encore une ou deux mini-séries attendre de voir que ça marche et puis en faire d'autres. Mais non, là, ils nous en sortent 7 d'un coup, c'est vraiment, vraiment nous montrer que c'est juste la machine à fric. C'est pas pour le respect de l'œuvre ou c'est pas pour la création, c'est vraiment pour le fric. Et c'est dommage quand ça se voit trop comme ça.
Moi, je pense que j'attendrai les. J'irai certainement voir. J'irai feuilleter le premier de Rorschach, le premier de. Il y avait quoi d'autre qui m'intéressait, celui avec JD sur Ozymandias. J'irai feuilleter et je pense qu'après j'attendrai les TP ou j'attendrai les TP quand ça sortira.
Moi, je pense qu'après tu iras les voler en magasin.
Ouais.
Il les planque dans ton chapeau. Au fait, il planque sa pile de comics sous son chapeau et il sort comme ça des comic shops.
Ah ouais, ouais, carrément.
Bientôt, il va te falloir un haut de forme.
Oh, quelle bonne blague.
Ouais, attention, il y a de la merde.
Il y a de la merde.
Franchement, c'est pas mal.
N'importe quoi. De toute façon, il y a déjà eu quelques réactions sur le site.
Il y a eu des débats passionnés là, dans les commentaires après la news de ça.
Tant mieux.
Il y a eu de l'enflammage, il y a eu de la compassion.
J'ai même lu un bordel à un moment.
Oh, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a jeté un papier de bonbon par terre de rage.
Ouais. Mais c'est bien de voir que les gens réagissent. Quoi. Enfin, moi, ça me fait plaisir de voir les gens réagir.
Mais je dirais par rapport à ce que disait je ne sais plus qui, que c'est une question de timing aussi. Et puis c'est vrai que c'est peut-être effectivement un mauvais timing de sortir ça maintenant. Alors qu'il y a les New 52, c'est vrai qu'il y a certains créateurs qu'on aimerait avoir sur d'autres séries qui en ont bien besoin, plutôt que sur du Watchmen, alors que Watchmen... Enfin, pourquoi raconter les origines maintenant qu'on a les New 52?
Vous comprenez pourquoi Rob Liefeld arrive sur autant de séries? C'est parce qu'ils sont tous ailleurs en train d'écrire Watchmen.
Non, c'est non, parce que... C'est parce qu'il fallait surtout pas qu'il soit sur Watchmen.
Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, tous les derniers numéros de chaque mini-série vont être dessinés par Rob Liefeld.
Ouais. Mais moi, j'aurais bien voulu voir la mini-série Rorschach par Rob Liefeld.
Oh putain. Non,
je pense que ça aurait été du grand art.
Watchmen 2. Enfin,
Arrêtez au bout d'un épisode.
Par contre, pour ceux qui n'ont toujours pas lu Watchmen, parce qu'il y en a un qui l'a dit sur le site, je sais plus qui c'est, franchement, attends, allez-y, parce que
on va prendre son adresse.
Et on va lui péter sa gueule.
Ça fait, je pense.
Non, mais c'est quand même, même si ça reste un chef-d'œuvre, quelque chose qu'il faut avoir lu.
Ah, c'est Chaos-Storm.
Il faut quand même se dire que ça a été écrit dans les années 80 et que ça se ressent.
Oui.
Aujourd'hui. Pour quelqu'un qui ne l'a pas lu, qui le découvre aujourd'hui, ce ne sera pas le même choc que ça a été à la moment de la sortie.
Oui, je confirme. C'est sûr.
De toute façon, qui l'a lu, franchement, parmi nous, au moment de la sortie?
Ouais. Mais ça, pas
je l'ai lu avant.
À la sortie, en plus, hein. Parce que j'ai vu les chiffres de vente. Non, non.
Tu l'as lu à la sortie, en 87?
Non, bien sûr. J'ai vu les chiffres de vente.
Non, mais Steve avait déjà 40 ans en 87.
Bah oui, c'est vrai qu'il en a 60 maintenant.
Bon, c'était des ventes très faibles, en fait, hein. Je crois que ça s'est vendu à quoi? 30 000 exemplaires, le numéro. Donc c'était vraiment, pour l'époque, c'était super faible.
Ouais.
Et c'est en fait au moment des rééditions en TPB, par la suite, que ça a vraiment décollé. Ah,
ça a commencé à décoller déjà au numéro 4. Surtout, il y a beaucoup de gens qui voulaient les exemplaires du 1, il n'y en avait plus. Donc, d'où le fait que les rééditions aient autant marché.
C'est un petit peu le phénomène, en beaucoup moindre importance, mais d'Animal Man, quoi.
Oui. Oui,
qui a commencé un petit peu comme ça, pas avec des gros... des grosses reviews, les gens s'en fichaient un petit peu de cette nouvelle série, puis c'est le seul New 52 dont le numéro 1 est autant demandé et en rupture de stock et voilà quoi, et le numéro 2 a sacrément plus vendu.
Ouais, enfin c'est pas le seul hein, quand même à vendre encore, puisque je regardais les chiffres du mois de décembre hier ou avant-hier, et j'ai vu par exemple que le Detective Comics numéro 1 s'était encore vendu à presque 5000 exemplaires au mois de décembre.
Oui, bien sûr, ce que je veux dire c'est que Animal Man,
énorme, quoi.
Animal Man, c'est le seul à avoir vendu
ça continue,
plus.
Hein.
Par la suite que le premier.
Oui.
Voilà.
Mais parce qu'on a les premières données de janvier qui sont sorties vendredi. Parce qu'on enregistre vendredi, on va quand même le dire. DC quand même écrase complètement le top 10, parce qu'ils ont tout le top 10.
C'est hallucinant. Moi je me rappelle pas avoir vu ça.
Et ils ont repris la tête du marché, devant Marvel.
Bah c'est bien. C'est bien. Moi je suis content. Au moins ils se battent, il y a de la compétition, ils essayent de nous sortir des trucs. C'est nous qui sommes gagnants, hein, comme je dis.
Non, mais apparemment, Marvel avait quelque peu trafiqué ses chiffres la dernière fois qu'on en a eu.
Bah, c'est surtout qu'avec Avengers Extinction, ils en sont sortis à 6 couvertures, donc 6 couvertures variantes, donc c'était clair que ça allait se vendre, quoi.
Ouais.
Par contre, Defenders, j'aime bien la chute du titre, qui était dans le top 10 le mois dernier, qui est, je crois, plus de 30 places en un mois.
Pourtant, ça a l'air pas si mal hein, pour du Fraction.
Pour du Fraction, ouais.
Je suis pas allé au-delà du 1. Hein,
On en reparle tout à l'heure, de Defenders.
Ouais.
Autre chose dans les news, Mark Waid tout court, pourquoi Mark Waid et Mark Waid va arrêter Irredeemable et Incorruptible.
Bah, il y avait son dessinateur aussi. enfin ses dessinateurs du coup.
Ça fait un moment qu'il a arrêté le dessinateur d'origine.
Oui, mais enfin qui y avait actuellement.
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais rien.
Mais bah, c'est dommage parce que c'est une bonne série et je sais d'ailleurs que le numéro de cette semaine qui sortait la Dire Mabel était un bon jumping point pour les nouveaux lecteurs, donc bon bah finalement ça va pas servir à grand chose.
Donc en fait pour donner les chiffres, Irredeemable s'arrêtera au numéro 37 et Incorruptible au numéro 30. Voilà.
Ben moi, c'est deux séries que je ne suis pas, que je n'ai jamais lues. Et du coup, vu que ça s'arrête, je me dis peut-être que ça, au moins, on sait qu'il y aura une fin.
Mmh. Oui, mais oui.
En tout cas, ça vaut le coup.
Ouais, c'était très bon. Bah, les premiers numéros sont disponibles en français déjà, si, si tu en
veux. Ouais, deux volumes et 12 premiers épisodes. Ouais. Si Delco veut bien nous sortir aussi Incorruptible, ça serait plus mal.
Bah, ils avaient prévu de le sortir, mais on attend toujours la suite, hein. Mmh. Voilà, maintenant qu'ils savent en plus que ça s'arrête, ils ont matos, quoi. Ou alors c'est que les ventes ont été tellement catastrophiques et qui
Ah non, encore irrécupérable, d'après ce que j'ai compris, ça s'est bien vendu.
D'accord.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils enchaînent avec le tome 3, bah je crois qu'il sort le mois prochain. Hein.
Bon bah c'est bon à savoir. Mm. Comme je ne regarde absolument pas à l'avance ce qui sort chez Delcourt.
Ouais, ça sort en mars le 26, je crois, un truc dans le genre.
Donc je pars, oui. Peut-être.
Ah, on peut dire ce qui est, mais Panini fait quand même une très bonne communication sur la sortie de ses titres 2 mois à l'avance. Mmh. Au minimum, ouais. Avec les couvertures et tout de présenter sur leur Facebook. Et c'est vraiment très pratique, surtout pour le lecteur VO, de s'y retrouver.
Ouais. Ouais, c'est clair.
Au moins, ça, c'est vraiment une des très bonnes choses qu'ils font.
Mmh. Bah, Urban Comics fait un peu pareil, puisqu'ils ont sorti quasiment tout leur programme kiosque de l'année.
J'ai pas regardé.
Ah, bah, il faut regarder.
Ouais. je laisserai les 3 petits points.
Non, non, mais ils s'améliorent au niveau communication, je trouve.
Ouais, bah ouais, mais c'est pas en communication qu'on voudrait qu'il s'améliore. Enfin, moi perso, c'est pas en communication que je veux qu'il s'améliore. Hein. Après, chacun
c'est en contenu, oui, bah on va voir.
On verra, on va leur laisser leur chance. On verra. Parce que ce mois-ci compte pas, enfin le mois de janvier comptait pas, quoi. Mm. Ok, autre chose dans les news.
Bah oui.
Oh oui, d'accord.
DC Comics qui a remanié pas mal de ses titres cette semaine, qui a annoncé qu'ils allaient remanier plusieurs de leurs titres, ouais. Dont notamment l'arrivée de Jeff Lemire sur Justice League Dark.
Ouais.
Je l'ai dit.
Je vais peut-être relire Justice League Dark, donc. Parce que moi, je me suis arrêté au premier, ça m'a pas accroché. Donc.
Alors, du coup, qu'est-ce qui devient sur ces autres titres?
C'est-à-dire qu'en fait, Jeff Lemire a 8 bras, et il écrit 92 séries par mois.
Bah non, c'est dommage parce qu'il arrête, en fait, Frankenstein, du coup.
Il reste sur Animal Man.
Voilà, il reste sur Animal Man. Il arrête, donc, Frankenstein. Peter Milligan, lui, bah, il continue, il part sur Stormwatch. Donc il remplace Paul Jenkins.
Ça c'est des chaises musicales.
Non, il remplace Cornell.
Ouais. Oui, Paul Cornell, oui, c'est ça.
Type qui reprend Frankenstein, je connais pas du tout. Matt Kind, jamais entendu parler.
D'accord. Bon, encore ouais. Une série peut-être qui va pas faire long feu du coup après.
Bah c'est dommage, ouais, parce que c'était. Moi je trouve que c'est vachement bien.
Bah moi c'est une série que j'avais l'intention de me faire en TP dans l'année. Et l'arrivée de Jeff Lemire, vu que tout le monde en dit du bien.
Moi j'avais l'intention de me la faire en tapas.
Ça peut être sympa.
Tant que tu pars en pétasse.
Oh là là, les enchaînements foireux. c'est terrible.
Essaye de faire mieux, Steve.
C'est terrible. Non, non, je ne vais même pas tenter.
Et enfin, la dernière annonce, c'est l'arrivée de Greg Hurwitz sur Batman Dark Knight.
Ah, qui remplace Paul Jenkins.
Ouais. Qui se fait virer, du coup, de tous ses titres.
Ouais, j'ai arrêté Batman Dark Knight parce que.
Moi aussi.
Sans plus.
Mais, bah, c'est une bonne nouvelle parce que. Monsieur Hurwitz fait du très bon boulot sur la mini Pingouin en ce moment, donc c'est une promotion pour lui, tant mieux.
Ouais, bon, Greg Hurwitz commence à être connu quand même. Mm.
Et David Finch qui reste au dessin.
Pas tant mieux.
Ouais.
En même temps, je pense que le jour où David Finch en ira de Batman Dark Knight, la série continuera pas très longtemps.
Ouais. Oh bah Jason Fabok qui l'avait remplacé était aussi très bon.
Ouais. Oui, mais c'était son disciple.
Oui, mais s'il est toujours là, lui.
Ouais.
Ah, il peut largement tenir le titre.
C'est quand même lui qui porte, c'est son nom qui a porté la série depuis le départ, quoi.
Mmh. Ouais, mais bon.
Bon, enfin, on peut dire qu'après l'hérésie Rob Liefeld, DC commence un peu à s'attraper. Il leur reste plus qu'à virer celui qui a embauché Rob Liefeld et c'est bon.
Mmh. Bon, qu'il se dénonce.
Un pas en avant.
Bah, il y a des chances que ce soit Babaras hein, qui est tout géré en ce moment.
Bah, il paraît que non.
Il y a des bruits de couloir qui disent que non.
Voilà.
Bon, ok.
Il faut voir, je pense, du côté de Dan Didio.
Ouais. Il voulait arrêter les titres, en fait, et...
Il savait pas comment faire.
Voilà.
Il a trouvé la solution, en tout cas.
Oh, deux, c'est pas grave, allez.
Allez, on va aller un petit peu du côté de chez Marvel, avec les premiers aperçus du nouveau costume de Spider-Man dans ce gros arc.
Peut-on dire ce qu'on en a pensé la première fois qu'on l'a vu?
Oh bah oui, allons-y, hein, soyons honnêtes.
Peut-on dire aux gens de laisser leurs commentaires et de nous dire là ce qu'ils voient à l'image en ce moment?
Bah, vous voyez le costume. Sa tête m'a fait penser à l'organe masculin de l'amour.
C'est quoi, le pouce?
Le cœur, une tête de cœur.
Je dirais plus bas.
Le téton. Le gros orteil.
Plus haut. Un gros téton.
La tête de Red Hood.
Entre le gros téton et le gros orteil.
Effectivement, Benny. Oui, effectivement, j'avais pas vu le...
Ouais, il y a un petit air à la Red Hood, ouais.
Bah, il a il y a un teaser, on le voit enfiler, Oui, Red Hood a traîné pas mal dans des bars homosexuels.
Le choix de mots qui pouvait pas plus mal tomber, en fait.
Ouais. Non, comment dire?
Ah, tu peux plus rien dire derrière ça.
On le voit se vêtir d'une combinaison effectivement de motard qui fait penser à Red Hood, qui fait penser à Jason Todd.
Donc c'est pas une combinaison en latex. On sait jamais avec Peter Parker. Je sais pas, moi il m'a fait penser à un mélange entre le costume de Deadpool et celui de Ant-Man, le Ant-Man des Secret Avengers.
Mais moi, comme je disais avant le podcast, ça me fait surtout penser au costume de Venom, Flash Thompson, mais avec des couleurs différentes.
Je sais pas pourquoi, on communique beaucoup sur cet arc en tout cas.
Ouais. End of the Earth.
Ouais, là, pour l'instant, c'est leur grosse communication du moment. Ouais.
Personnellement, moi je m'en fous. Moi qui suis fan de Spider-Man en ce moment, tout ce qu'ils annoncent dessus me laisse totalement froid.
Ouais, bah tu ne suis plus vraiment de toute façon.
Au moment où ça redevient bien, toi tu lâches. C'est bizarre.
Mais ouais, non, ça dépend. Ça dépend des arcs, ça dépend des numéros.
On reparlera du numéro de cette semaine tout à l'heure aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les news encore?
L'arrivée des titres de Terry Moore sur Comixology.
Donc on s'en fout.
Ah non, ils viennent de mettre. Il a commencé par Strangers in Paradise.
D'accord. Ah,
donc on s'en fout.
Donc tu sors, Nono. C'est gentil.
Nono, tu avais quelque chose aussi?
Ouais, il y a Marvel qui lance une mini sur uniquement en digital sur le Nick Fury des films, en fait, qui va s'intéresser un peu plus à la personnalité de Nick Fury avant la sortie d'Avengers. Le premier numéro est gratuit. Il sera disponible je ne sais plus quand, j'ai plus la date en tête.
C'est comme les vendeurs de drogue, la première dose est gratuite.
Voilà. Et ensuite, alors par contre, là, dans la news, ça n'a pas été annoncé qui était le dessinateur, qui était le scénariste.
Ça, c'est pas possible. Je pense que ça de la merde.
Ouais, mais voilà. Après, le premier épisode est gratuit, donc tous ceux qui ont les applis Comixology ou Marvel, voilà, allez-y quoi.
C'est lisible sur PC aussi, hein. Oui, c'est tout à fait disponible sur PC, donc même ceux qui n'ont pas de tablette ou trucs comme ça, vous pouvez quand même le voir.
C'est pas moche. Il y a une petite preview qui est mise sur le site. C'est pas le comics qui va déchirer quoi, mais c'est juste pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin dans la psychologie et de connaître un peu plus le Nick Fury version film.
De toute façon, avec Marvel, généralement tout ce qui sort d'abord uniquement en digital est repris ensuite en format comics papier.
Ouais.
Une fois que tout a été sorti en digital, donc si vous n'avez pas de digital et que vous voulez quand même le truc en format papier, ça devrait être possible.
Et ça s'appelle Fury's Big Week.
J'ai eu peur.
Et pas Fury's Big Dick.
Oui.
Bah, en parlant du film Avengers, il y a un spot de pub sur le film qui va passer au Super Bowl.
Ouais.
Ce week-end.
Ouais,
de 10 secondes. Et ça, comme c'est sorti là dans la semaine, ça a déjà été vu 1 million de fois en 24 heures.
Bah, je fais partie des heureux élus qui n'ont pas regardé.
Moi aussi.
Je parle pas du Super Bowl, hein, je parle de la bande-annonce.
Bah, sachant que le Super Bowl passait dimanche. Enfin, va passer dimanche.
Va passer dimanche, ouais.
C'est normal que tu n'aies pas regardé le Super Bowl.
Oui, donc c'est... Effectivement. Donc je n'ai vu ni un ni l'autre à l'heure actuelle. Voilà.
Non, mais de toute façon, comme chaque année, le Super Bowl, c'est l'occasion de voir des pubs... des pubs extraordinaires. Tu sens que les entreprises, ils mettent le paquet pour les pubs au moment du Super Bowl.
Je crois que c'est 2 millions de dollars la seconde pour passer.
Si seulement on avait les pubs de diffuser, nous aussi.
Bah, et le Super Bowl aussi, quoi.
Le Super Bowl ces dernières années était diffusé sur a été diffusé sur France 2 et ensuite sur W9. Cette année, je ne sais absolument pas où il va être diffusé, mais je m'en fous, je le regarderai sur ESPN.
Et il passe l'intégralité sur France 2.
Oui, oui, mais à chaque coupure pub, c'était retour plateau. Ou alors il y avait une image pour l'international. C'était un petit peu chiant d'ailleurs, parce que moi
de toute façon les pubs tu les retrouves sur YouTube après. Hein.
Oui, mais c'est le fait de les voir en direct aussi. Quoi. Ouais, c'est aussi, ça fait aussi partie de la magie du truc.
Bon, de toute façon, YouTube, sachant que le truc en direct aussi.
Que dure l'événement, t'as 2 heures de pub quand même.
Oui, je sais bien. Bah, tu sais, je le regarde chaque année, donc j'ai l'habitude. Mais non, mais cette année, je sais pas du tout si une chaîne française le diffuse ou pas. En tout cas, il y a toujours pour les possesseurs de CanalSat ESPN.
Mais attends, si tu le regardes en direct, tu te couches super tard. Hein.
Bah oui.
D'accord.
Oui, oui. Mais Super Bowl.
Mmh. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Non, je comprends.
Et après, dans 2 semaines, on enchaîne sur Daytona.
Et dans 2 mois, on enchaîne sur WrestleMania. Mais c'est un petit peu le Super Bowl du catch.
Ouais, ouais. Bon, je crois que c'était tout pour les news.
Non, j'ai vu Human Centipede 2.
Ah oui, oui.
Finalement, et puis c'est W9, Steve. Je viens de regarder, je viens de checker. Je viens de googliser.
Putain, on vous donne plein d'infos, là, c'est formidable, quand même.
C'est magnifique.
Je m'avais rien la semaine dernière et puis là
même en espérant que j'ai monté à temps le truc hein, ouais. Que ça sorte pas lundi.
Donc juste pour terminer là-dessus, c'est un véritable chef-d'œuvre du cinéma de genre, hein, vraiment de genre très particulier.
Tu vas t'en souvenir longtemps.
Ouais, je pense ouais. Donc ne le matez pas, hein, franchement, sauf si vous êtes un grand psychopathe. Et justement, à plus forte raison, si vous êtes un grand psychopathe, ne le matez pas, ça pourrait vous donner des idées.
Bah écoutez, si vous êtes un grand psychopathe, essayez Dragon Ball Evolution.
Ouais, non, mais là, c'est... Ouais.
J'aimerais bien le voir, quand même.
C'est aussi dire. Horrible.
Tu peux mais pas comparer... Genre. Je pense que les deux sont quand même d'un autre...
Bah, disons que c'est aussi horrible, mais dans un autre genre.
Ah, chez Comic City, les goûts cinéphiles, fou. Ouais.
Disons que je l'ai vu quand il est passé il y a pas longtemps à la télé.
Non, mais
j'ai été fasciné par la nullité du truc. Je suis resté une heure et demie.
Parce que t'es osé le regarder jusqu'au bout, en plus.
Ouais, j'étais tellement fasciné, je me suis dit... À un moment, ils sont obligés de faire un truc forcément bien. Au moins un truc. Ben non.
Et ce Kamehameha, il est retranscrit comment?
C'est à chier. Les effets spéciaux sont à chier, les dialogues sont à chier, les acteurs sont à chier. L'histoire est à chier.
Non mais,
Et on a perdu Sam.
C'est vrai que de me remémorer le film, c'est...
Rien fou.
C'est terrifiant.
Il vient de tuer 40 personnes hier dans sa ville en se remémorant Dragon Ball Z Evolution. Il les a transformés en 1000 pattes géants, les gens.
Mais, disons que ça, entre regarder ce navet à nouveau et coller ma bouche contre la nuit de personne.
Du coup, tu fais ce que tu peux de tes soirées, Sam. Tout ça, ouais, franchement, tout ça pour justifier.
Vous comprenez maintenant pourquoi il ne vient pas en convention, hein, si,
voilà, parce qu'il colle, il est intenable. Il colle sa tête contre votre anus en disant c'est quand même mieux que de regarder Dragon Ball Z Evolution.
Bah, franchement, oui.
Et avec des excuses pareilles, franchement.
Oh là là.
On est plus que sorti finalement du sujet là.
Oui, oh que oui. C'est bien parce qu'on vient de faire une intro de 20 minutes avant de passer aux reviews. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de reviews cette semaine. Oula. Allez, on va entamer les reviews et bah honneur à celui qui n'a pas été là depuis très longtemps, Nono.
Merci.
Oui, carrément.
Tout à l'heure. Le mec a rien compris.
Alors je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler. En fait, j'ai pas lu grand chose cette semaine. J'ai lu pour.
En fait, je n'ai rien lu.
Non, j'ai lu 3 trucs. Alors, vous voulez un bail, un pass ou un bail? Non, un check-it.
Oh là là. Oh, c'est laborieux.
Ouais. Bah, j'ai le choix.
Un touche-le, un touche-le pas et le touche-le pas vraiment.
Bon, merci de ta review.
Donc, non, je vais vous parler de Avenger versus Extinction, là, Avenger Extinction, après le Teen Titan Extinction.
La review qui commence bien. Il a pas le bon titre.
J'ai cru qu'il allait dire Avenger vs X-Men. Bon, tu l'as déjà lu?
En fait, oui, je l'ai eu là cette semaine en avant-première. Non, donc Extinction, mini-série en 4, épisode 3.
Ça a été bien one shot.
J'avais chroniqué, j'avais fait un unspoken, il me semble, sur le premier, où j'avais dit que c'était vraiment pas top. J'ai continué, parce que je suis un peu maso.
C'est en 4, hein, faut préciser.
Oui, c'est en 4, tout à fait.
Non, mais faut préciser que c'est en 4.
Nous n'avons pas dit.
On est reparti là-dessus.
En quoi, j'ai pas compris?
En
3 parties, c'est ça?
4 parties.
C'est marqué 5 Limited Series 3 of 4. Donc, ça veut dire
avec que combien de couvertures variantes?
Ah, je sais pas. Non, il me semble qu'il y a pas de variante sur celle-là.
Si.
Ah si, ouais, il y a une variante, c'est marqué dans les crédits.
La couverture est moche, hein, cela dit.
Là, ouais, la couverture est pas top. On dirait Red Hulk qui fait un énorme câlin à Cable.
Bon, on dirait vraiment Red Hulk, mais...
On dirait que le câlin se passe pas bien, vu la tête de Cable.
Non, mais... Attention que le Red Hulk essaye d'introduire quelque chose dans Cable.
Moi, je pense qu'il y a eu une poignée de gravier avec.
Faut pas l'écrire pareil, Red Hulk.
Alors là, on cherche tous la blague.
Ouais, carrément.
Red Hulk. Red. R-A-I-D.
Ah oui! Oui, ouh! Putain, mais c'était, c'est une blague orthographique en plus.
Maître Capello!
Franchement, il aurait fallu ressortir la blague de l'autre forme. Vous pouvez pas les...
Eh, mais c'est horrible ce Comics Weekly, là.
Donc, Red is dead.
Voilà. Non, mais juste sur la couverture, faut quand même préciser que Marvel fait bien les choses, parce que on a un grand bandeau en haut qui nous indique que, attention, A versus X arrive dans 2 mois.
Mais c'est partout pareil.
Ouais. Mais bon, je trouve ça bon. Voilà, c'est ils ont besoin
même de. Même chez DC, il y a marqué AVX arrive bientôt.
Moi, ce que j'aime le plus, c'est le hashtag, hein, quand même. C'est, on nous précise le hashtag pour pouvoir en parler sur Twitter.
Mmh. Ouais, carrément, ouais.
je trouve ça pathétique.
Ouais. Donc, c'est la grande mode maintenant de foutre le lien, le hashtag partout. Quoi.
Ouais.
Même quand t'achètes des légumes maintenant, on te dit parlez du goût de ce légume sur Twitter.
Hashtag courgette, hashtag poireau. C'est pour.
Donc rappelons les crédits. Jeff Loeb au scénario, Ed McGuinness au dessin.
Peut-on parler de scénario?
Bah, je vais y venir. Dexter Vines à l'ancrage et Maury Hollowell à la colorisation. Et Comicraft à deux chaînes au lettrage.
Ça veut dire qu'il n'a absolument rien à dire sur le comics, hein, si c'est tout ça.
Non, parce que moi j'ai des choses à dire quand même sur ce comics.
Ouais. Honnêtement, j'ai attaqué à la lecture du 3 en me disant putain, le 1 et le 2 c'est pas top. Bon, allez, je vais le lire. De toute façon, il faut bien que je parle de quelque chose pour l'enregistrement. Je me suis sacrifié et j'ai été agréablement surpris. On va dire que le comic se sépare, en trois parties. Le premier tiers, c'est la digne succession des deux premiers. C'est-à-dire que c'est pourri. C'est une baston entre Hulk et Cable, voilà.
Et tu viens de l'ouvrir là sur la première page. Il y a une jolie photo de Franken's Cable. Je trouve ça ridicule.
Oui, voilà, donc Cable se fait de plus en plus bouffer par son virus tectonique. Et,
le truc que t'as ressorti d'il y a 5 ans qui était mort et que plus personne n'en a parlé depuis.
Il a la tronche d'un gorille, je trouve, et puis il a
moi, je trouve qu'il a une tronche de Frankenstein, quoi.
Mais il a aussi le look de Colossus un peu.
Oui, un peu, ouais. Mais ça c'est le gris métallique qui lui fait ça. Nos trois Vengeurs sont toujours complètement HS, donc Falcon, Captain America et Iron Man. Donc quand même il y en a deux qui ont réussi à se faire niquer par un petit mutant. C'est un peu
déjà. Quand on est à la couverture, est-ce que niquer est vraiment le bon mot?
Ouais. Et après.
C'est en 4.
À partir du moment où il y a le saut dans le futur, où Cable se rappelle sa conversation avec son ami bizarre là qui s'appelle
Blacksmith.
Où il se retrouve dans la Avenger Mansion du futur. Et là, je trouve qu'on apprend pas mal de trucs et c'est assez intéressant du coup ce qu'on apprend sur le futur, sur qu'est-ce qui s'est passé, etc. Notamment une petite case où Cable voit l'armure du futur d'Iron Man, où il se rend compte que l'armure intègre des parties de Sentinelle et où il dit les Vengeurs ont prévu une guerre contre les X-Men. Et donc, il est d'autant plus content d'aller péter la gueule aux Vengeurs.
Oui,
ça amène bien, en fait, l'event d'Avengers versus X-Men. Ça remplit bien son boulot, il n'y a pas de souci.
Ouais, il y a des indices qui pourraient être intéressants, quoi.
Ouais.
On peut se poser la question de savoir si ça va se passer comme ça ou pas.
Voilà. Après, on revient dans la baston classique et la fin de l'épisode. Ben, voilà. Moi, m'a surpris et me fait dire que le dernier épisode de cette mini en 4, finalement, risque d'être sympa.
Ou tout pourri.
Ou tout pourri. Mais je trouve ça quand même dommage d'arriver, d'attendre le quatrième et d'attendre la fin du troisième pour enfin lire un truc intéressant. Je vais pas révéler qui débarque à la fin.
Kang.
Non, pas du tout. Voilà. Par contre, Bunny, je sais pas toi, la dernière page m'a un peu surprise.
Bah, c'est sûr que voir MODOK comme ça en slip.
Ouais.
C'est traumatisant.
Bah oui.
Non, la dernière page. Donc, qu'est-ce qui t'a surpris,
celui qui veut tuer Cable.
Pff, c'est un petit peu son style en même temps. Donc,
Ouais, mais. On peut pas spoiler, donc.
C'est un peu forcé, ouais. Voilà. C'est un peu forcé, mais moi je pensais surtout à ceux qui débarquent juste avant lui, enfin juste avant eux.
C'est cela que je veux pas
dire. C'est ça qui est intéressant.
Oui, à la fin, on peut le dire. Voilà, il y a le reste des, il y a deux autres Vengeurs qui débarquent. Et moi, ce qui me dit, on peut dire qu'ils débarquent, c'est pas ça qui va.
Ouais, non, mais c'est Spider-Man et Wolverine, mais je pense que de toute façon, tu les as sur la couverture du numéro 4, donc.
Oui, et il y a Wolverine qui dit voilà, on va buter Cable, quoi, alors que c'est des mutants. Wolverine est un mutant, Cable est un mutant, donc du coup on sait pas où Wolverine se place dans la guerre Vengeur mutant, quoi. Bah là on s'en doute, mais moi ça me dérange un peu que Wolverine veuille aller buter un mutant comme ça et se dire allez ouais, allons lui faire sa fête.
Bah ce qui est étrange, c'est que surtout oui, on a l'impression qu'il est du côté des Avengers comme ça sans raison, quoi. Il y a pas eu de grandes discussions, il s'est pas remis en question. Enfin voilà, quoi, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ah bah tiens, je vais être du côté des Avengers. Allez hop.
Voilà. Oui. Donc un numéro en demi-teinte, pour moi ça sera un check-it à tendance plus. Pour ceux qui ont lu les deux premiers, allez-y, quoi. Continuez, c'est qu'une mini en 4, ça va pas vous ruiner. Donc allez-y. J'attends le dernier numéro en me disant peut-être que le dernier numéro justifiera à lui seul l'achat du reste.
Ouais, bah moi je continue à dire que ça aurait été peut-être mieux en one shot.
Oui, certainement. C'était largement faisable en one shot, c'est clair.
Ok, la suite, Sam.
Bah moi j'ai lu le Punisher, ça y est, je l'ai bien dit. Oui.
Auto-congratulations.
Le Punisher, donc les numéros 8 par Greg Rucka et Marco Cecchetto. Donc qui reprend en fait la suite de l'épisode non pas 7 mais 6, puisque le 7 était en fait un interlude où Greg Rucka centrait l'épisode sur les deux inspecteurs qui pourchassent le Punisher et où on en apprenait un peu plus sur eux. Et donc on reprend là où on avait laissé en fait le Punisher, c'est-à-dire qu'il faisait face à la mariée, vous savez, de l'épisode 1. Mmh. Qui a vu toute sa famille massacrée qui a décidé dans l'épisode suivant de se venger de tout le monde, donc de l'organisation mafieuse qui était derrière tout ça. Donc l'échange est assez court, assez militaire on va dire. D'ailleurs si quelqu'un peut m'expliquer ce que signifie le mot de passe qui s'échange, ça m'arrangerait.
Oui, je peux pas te le dire.
Ça veut dire que j'ai envie pour ça.
Ah bah oui c'est vrai, donc je peux pas te le dire.
Et on apprend un truc sur les informations en fait que le Punisher récolte, puisque quand ils se rencontrent, ils ont mutuellement et chacun de leur côté massacré dans un cottage retiré dans l'état de New York, on va dire quasiment tout l'état de pensant de l'organisation mafieuse en question. Donc il y a que des corps en charpie autour d'eux et eux au milieu, ce qui est plutôt sympa. Et on apprend donc des choses sur la fin de l'épisode que je ne vais pas révéler.
Ah, donc, mais si, vas-y.
Non. Personnellement, je trouve que c'est toujours très, 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 très bon.
C'est vrai, parce que moi, j'ai arrêté au premier. Et voilà, j'ai pas accroché. Et c'est pas du tout une série qui m'attire, quoi.
Donc, tu sors encore.
Bon, d'accord. Ouais, pareil que Nono, pour du Punisher, je trouve qu'on a eu largement mieux, notamment sur la série Max que tu devrais lire.
Je l'ai lu, et je préfère celle-là.
Ouf. Oui, mais Sam est pas partial. Il est tellement fan de Greg Rucka.
Oui.
Mais c'est quand même très bien. Donc moi, c'est
d'ailleurs, on aurait changé le nom. On aurait mis Matt Fraction à la place de Greg Rucka, mais avec exactement le même scénario, il aurait trouvé ça.
Non, parce que Greg Rucka, Matt Fraction n'aurait pas pu écrire un truc aussi bon.
C'est ce que je dis. Je suis complètement impartial.
Ouais. Moi, je trouve ça assez peu inspiré, quoi. C'est du déjà vu.
Tu sors aussi, Benny.
Écoute, le coup de la nana qui veut se venger et qui devient une Punisher au féminin.
Justement, c'est plus compliqué que ça.
Ouais, en tout cas, ce que tu en as dit ne m'a pas donné envie d'y retourner.
D'accord. Bon,
Tous les deux. Non, le Punisher par Greg Rucka, c'est très bien.
Donc c'est un pass.
Ultra Megabyte.
Ok.
Franchement, c'est pas sympa d'en dire autant de mal.
Benny, ouais, qu'as-tu lu cette semaine?
Ben alors, j'ai lu pas mal de choses, non pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous faire? Animal Man?
J'ai pas capté, moi.
D'accord. Alors, je vais vous dire ce que j'ai compris d'Animal Man, puisque moi aussi, j'étais assez circonspect à la lecture de cet épisode. Au fait, on retrouve donc notre ami Buddy Baker, mais au fait, ça commence comme un film.
Mais c'est un film.
Bah, de toute façon, Buddy Baker était un acteur.
Oui. Et là, au fait, on te montre ce qui semble être un film qu'il a tourné avant, dans lequel il a tourné un héros qui s'appelait Red Thunder, je crois.
Bah, en fait, c'était évoqué dans l'épisode 1 qu'il avait tourné un film indé, et c'est ça qu'on voit dans cet épisode.
D'accord, ok, parce que j'avais oublié ce détail quand même depuis le temps. Et donc, on voit au fait tout un passage de ce film Red Thunder, et alors je me demandais si c'était un mélange entre la vie réelle de Buddy Baker et le film, ou est-ce que c'était entièrement le film qu'on voyait?
Entièrement le film.
Bon, d'accord. Mais du coup, le film en question, c'est, si tu veux, un mélange entre Alias, Kick-Ass, et on va dire, il y a un petit côté de John Constantine dans le personnage de Buddy Baker. Donc,
je vais sortir un gros film de cul.
Malheureusement, non.
Malheureusement, non, mais l'épisode est assez sympa, même si je vois pas du tout ce que ça venait faire là. C'est une énorme parenthèse par rapport à ce qui se passe d'habitude. C'est-à-dire qu'à la fin, on te dit, tiens, au fait, il faudrait peut-être qu'on aille affronter la pourriture. Allez, hop, c'est parti, on y va. Et il faut qu'on cherche Swamp Thing. Allez, hop, on y va tous ensemble, gaiement dans la caravane.
Je suis complètement d'accord. J'ai pas compris l'intérêt du truc.
Ben ouais.
Je vois pas trop ce que ça me fout trop là, mais bon. Bon, John Podleon qui dessine est très bon, mais je vois pas trop ce que ça vient faire là.
J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le ton de l'épisode, j'ai trouvé ça intéressant, mais par contre, c'est tellement une grosse parenthèse par rapport à ce qui se passe dans le reste de la série, que tu te dis, mais est-ce que ça va avoir une incidence, ce qu'on te montre? Et j'ai bien peur que non. Donc, moi j'ai envie de dire, un bon check-it quand même à tendance plus, comme dirait Nono, parce que c'est pas mauvais, mais c'est totalement différent de ce qu'on a lu jusque-là sur Animal Man, voilà.
D'accord. Moi, c'est je pense que c'est l'une des seules séries des New 52 que j'ai vraiment envie de me faire en TP, parce que j'avais pas la thune pour l'acheter quand ça sortait quotidiennement, mais quand ça sortait en VO.
Bah, de toute façon, t'as pas avoir le choix, hein, parce que Urban Comics, ils l'ont toujours pas annoncé, la série.
Bah oui, voilà. Donc
ils vont le faire. News, ils vont le faire. Ils vont faire Animal Man et Swamp Thing, du coup.
Bah, ça aurait été cool de passer à côté de la poule aux œufs d'or, franchement.
Ouais.
Something c'était déjà annoncé, mais Animal Man,
je l'ai pas vu passer non plus.
Hein. Non plus.
Non, mais c'est je sais que théoriquement, c'est prévu.
Voilà. Attends, ça serait bien. Mais je pense que en plus là, il sort avec la première vague, il me semble, Animal Man de TP hardcover, et il sort directement en TP, donc à un prix relativement correct. Mmh. Et du coup, je pense que je me le prendrai quand il sortira au mois de mai.
Ok, très bien. Defenders numéro 3. Alors. Non, numéro 3.
Oui.
Ouais, au 3 déjà.
Et ouais, bah oui. 3.
Alors, au niveau du scénario, on a Matt Fraction pour les dessins, Terry Dodson à l'ancrage, Rachel Dodson. Et alors donc c'est la fin de l'arc grosso modo. Je suis pas certain que ce soit la fin de l'arc. Mais c'est la fin de cette histoire avec Null en fait. Je dois avouer qu'honnêtement, je comprends rien à cette histoire. Je ne capte rien, c'est trop bizarre. C'est vraiment, vraiment trop bizarre. Donc, Null arrive dans cette base où qui sont censés protéger dans le Wundragore, ils cassent tout, il y a de la grosse baston. Et le plus intéressant étant surtout la réaction finale de l'équipe, et notamment de Doctor Strange. Mais ben, honnêtement, je capte moitié rien dans ce truc. Je suis un petit peu déçu, quoi. Alors, il y a toujours des passages drôles. Ça, au moins il y a ça, c'est déjà cool. Il y a toujours ces petites phrases en bas aussi, comme il y avait eu dans le premier pour ceux qui l'avaient lu,
ouais.
Qui rappelaient les comics années 70, qui sont toujours assez sympathiques. Mais au niveau de l'histoire, c'est trop mystique pour moi là. Ça se barre trop en live. Donc check it, pas plus. J'en dirai pas plus parce que moi franchement je capte rien.
Ça me rappelle un petit peu tu sais quand on avait lu l'introduction dans le Part 1.
Ouais.
De Defenders, où voilà, c'était déjà très très mystique, et je m'étais dit, oulala, c'est quoi ce truc, j'y piche que dalle. Et j'ai peur que ça reprenne cette direction.
Non, mais là, c'est-à-dire qu'il y a des histoires de réalité alternative, et en même temps d'autres timelines, de changements, d'annihilation de toute vie pour repartir. Enfin, je comprends que dalle.
Mm-hmm.
Vraiment. Là, ça me dépasse. Donc tant pis, check it. Ça reste sympathique parce que c'est comique, mais voilà, au niveau de l'histoire, il y avait vraiment ce cliffhanger final que je trouve intéressant. Voilà.
Suivant. Eh bien, merci à tous.
Ah oui, c'est des reviews rapides hein, chez moi. Là. ça fait dans le rapide. Suivant.
Ben moi, je vais vous parler de Winter Soldier, de Ed Brubaker, Butch Geiss. Donc Ed Brubaker au scénario, Butch Geiss au dessin et Betty Breitweiser à la colorisation. Donc, numéro 1, nouvelle série pour le Winter Soldier. Alors j'ai dû me faire un petit refresh parce que pour moi Bucky était mort pendant Fear Itself et j'avais pas suivi qu'en fait il était pas vraiment mort.
Mais t'avais pas lu la fin, bah alors.
Si, mais ça m'était sorti.
C'est quoi Fear Itself 7.2, c'est ça?
Ouais, je crois, ouais.
Ah mais voilà, j'ai pas lu les points. J'ai pas lu les Fear Itself. Voilà,
ça veut dire les points qui annulent tout ce qui se passe dans Fear Itself.
C'était le 7.1 parce que le point 2 c'était sur Thor.
Ah bah voilà, donc je n'avais pas lu le Fear Itself 7.1, donc j'ai dû faire une petite recherche pour essayer de comprendre. Et donc en fait, Bucky, le fait établi est que pour tout le monde, Bucky Barnes est mort, sauf pour vraiment un tout petit cercle d'initiés, dont Natasha Romanoff, la veuve noire. Et en fait, Bucky, du coup, va se mettre à enquêter sur
Cap est au courant.
Oui, Cap est au courant, oui, mais le Cap n'apparaît pas du tout dans cet épisode-là. Donc, Bucky, en fait, va se mettre à enquêter sur les autres soldats de l'hiver, parce qu'en fait, il n'était pas le seul soldat de l'hiver. Les autres étaient toujours en sommeil, et les codes de réactivation de ces Winter Soldier viennent d'être vendus au marché noir.
Je sais pas s'ils disent que c'est des soldats de l'hiver, précisément. C'est des soldats comme lui, quoi.
Oui, enfin, c'est des gens qui sont en état que lui, quoi.
Voilà, en fait, on sait qu'il y en a trois. Voilà. Donc à mon avis, il y a le soldat de l'été, le soldat du printemps et le soldat de l'automne.
Oh là là.
Bon voilà, donc ça, voilà, il part enquêter, il trouve un conteneur, mais oh, il est vide. Et à la fin, en fait, il y en a un qui est libéré. C'est une petite surprise moyenne.
On voit surtout qui a racheté ses codes d'activation. Une alliance assez sympathique, on pouvait s'en... Disons que vers la fin de l'épisode, on pouvait s'en douter, moi j'avais pas vu venir. Et voilà.
Et puis le but,
c'est surtout le but du pourquoi avoir acheté ces codes qui est intéressant. Moi je sais pas, ça m'a bien plu. Ça reste du Brubaker, hein.
Oui, ça reste... Mais là, c'est beaucoup plus tourné vers l'espionnage que sur le polar. Là, on est vraiment dans le monde déjà des agents secrets. Le dessin de Butch Guy s'en ressent également au niveau de la... Bah, surtout au niveau de la colorisation, je dirais. Là, c'est très froid. C'est même le rouge ou le orange. Et, je sais pas. S'il y a un aspect froid qui se dégage de ce bouquin.
Style, hein. Le style de dessin de Butch Guy, je trouve, a évolué avec ça beaucoup plus dans les ombres.
Oui.
On se rapproche d'un Sean Phillips.
Voilà. Dans les scènes de bagarre, on voit rarement le visage des personnages. C'est plus, on voit plus les corps, les ombres qui se battent. C'est pas mauvais. La fin, la toute dernière page, je trouve ça un peu gros. On sait très bien que ce qui se passe à la dernière page, c'est faux.
Moi, ça me rappelle surtout le premier arc de Captain America avec Brubaker au scénario.
Je l'ai pas lu, donc je peux pas te dire.
Bon. Enfin voilà, il y avait quelqu'un qui se faisait shooter. Voilà, et ça me rappelle un peu ça.
Ouais. Voilà, c'est à mon avis, c'est pas le comics de l'année. Moi, je dirais comme ma première review, un check it à tendance plus. Voir au deuxième épisode ce que ça va donner, parce que ça c'est sympa à lire, c'est pas transcendant, mais voilà.
J'sais pour pas moi, si vous... ce sera un bail parce que honnêtement, le style de dessin de Butch Guy, c'est je trouve excellent sur celui-ci. Mieux que d'habitude, je trouve encore. Donc pour moi, ce sera un bail, je passe un bon moment, même si au début, on a un petit peu mal à comprendre ce qui se passe.
Oui, mais au début, on se faisait... Bah, surtout que pour moi, il était mort, donc je me dis, merde, ça se passe dans le passé, ça se passe quand, en fait
Non, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que bon, c'est toujours le même problème, c'est qu'on revient encore au passé du personnage, putain.
Oui, bah Winter Soldier, c'est des retcons continuels, hein.
Non mais le problème c'est pas ça, mais c'est que enfin il peut pas nous faire des trucs qui se basent dans le présent, quoi. Sérieux, il est obligé de faire appel toujours au passé, que soit pour Captain America.
Sur ce personnage, il y a rien d'intéressant à raconter présentement, quoi.
Mais, parce que au fait, que ce soit Steve Rogers ou que ce soit Bucky Barnes, Ouais. C'est toujours le même problème, quoi. C'est toujours une menace qui vient du passé. Mmh. Putain, c'est bon, ouais. quoi.
Non, mais moi, j'ai envie de dire un truc par rapport à Winter Soldier, c'est mini-série, quoi. À mon avis, ça va être une mini-série. Parce que je doute fort que ça va fonctionner.
Je pense que ça, je pense aussi que ça se vendra pas beaucoup. Hein.
Et, surtout que Brubaker est sur 3 titres, hein, c'est ça, hein.
Ouais.
Captain
ouais.
America. Enfin, 3 titres.
Sans parler du reste.
Oui, bien sûr, ouais.
Non, mais c'est une série, voilà, elle a une durée de vie d'un an à tout casser, mais ça va être comme beaucoup de séries Marvel qui risquent d'être annulées au bout d'un an ou deux, quoi. Parce que ça n'aura pas d'impact sur le reste de l'univers.
Bah sinon il y a Carglass.
Oh ouais, là mais là. Sauf si c'est faut que ce soit plus petit qu'une pièce de 2 €. Non mais voilà, c'est à mon avis c'est une série sympathique. Je me souviens plus du prix.
3,99
comme tout le monde.
Ouais. Ouais, bah oui, forcément. Et bon voilà.
Par contre, Carglass c'est gratuit.
Si ça dépend. Assurance.
Ouais, voilà, ça dépend de ton assurance.
Voilà. Allez-y si vous voulez aller voir. Déjà feuilletez-le. Moi, juste pour la couverture de Liber Mero, qui est vraiment très jolie.
Ouais, super.
Ouais. Donc voilà. Comme je disais, un check-it à tendance plus.
Ok.
Amazing Spider-Man 679, Dan Slott au scénario, Humberto Ramos au dessin. Donc on continue sur le petit arc en 2 parties qu'il a lancé dans le 678, avec Peter qui découvre que dans les 24 heures qui suivent, New York va être détruite grâce à une invention d'un de ses collègues. Donc on voit Spidey qui passe toute sa journée à essayer d'empêcher la catastrophe et qui trouve la solution, comme d'habitude dans les films américains, 2 secondes avant.
Ouais, c'est fun, c'est frais.
Voilà, c'est frais. Puis je trouve que la manière dont il résout le truc, c'est plutôt sympa. C'est toujours avec Dan Slott, on revient toujours à Peter Parker et c'est pas Spider-Man qui est prédominant et Peter Parker qui sert à rien. Là, c'est vraiment Peter Parker dans tous les côtés. Et un bon Peter Parker, un Peter Parker intéressant.
Moi aussi, j'aime bien, franchement.
Voilà, pas un Peter Parker con comme au début de Born New Day.
Spider-Man est redevenu un bail, c'est quand même beau.
Ouais.
Bah, il a fait du bon boulot dans l'ensemble.
Ouais, depuis la fin de Born New Day.
Voilà, depuis Big Time, en fait.
Ok, on continue. Benny?
Oui, écoute, je vais te parler d'autres choses, justement, pas de Spider-Man, étonnamment. Je vais parler de Swamp Thing, de Scott Snyder et Marco Rudy. Alors, ce mois-ci, malheureusement, Swamp Thing, c'est toujours pas mal, mais par contre, qu'est-ce que c'est court? Il se passe quasiment rien dans cet épisode. Alec Holland est toujours avec Abby, et Abby est attrapée par la pourriture. Et au fait, on se rend compte, comme on pouvait s'en douter, que Abby est au fait l'incarnation sur Terre, enfin l'avatar de la pourriture, quoi. Et voilà, et puis...
On attend la dernière page, quand même.
Ouais, Alec Holland parvient à s'échapper. Il veut redevenir Swamp Thing. Et puis oui, il y a cette dernière page, mais alors franchement, j'y crois pas du tout, j'y crois pas une seconde.
Mais quand même, c'est un bon montant d'intention, j'ai beaucoup aimé l'épisode.
Non, moi j'ai trouvé ça encore une fois très très facile, et très court aussi.
Bah 20 pages, hein.
Là ça se lit en 2 minutes, hein. C'est vraiment, il n'y a quasiment pas de dialogue. Ah si, il n'y a pas de dialogue, je l'ai lu en 2 minutes montre en main. Voilà, c'est vraiment très court cette fournée et puis il y a pas de grosse révélation quoi, c'est vraiment assez convenu j'étais déçu par ce numéro par rapport à d'habitude, le niveau a baissé.
Donc,
sur ce numéro un check it, mais par contre sur l'ensemble de l'arc ce sera un bail effectivement puisque de toute façon ça reste quand même pas mal Swamp Thing. Ce serait dommage de passer à côté.
OK. Moi je vais retourner du côté de chez Brubaker avec la sortie du 2e numéro de Fatal. Donc John Phillips est au dessin. Alors, l'histoire. Comment?
Michael Youn. Fatal Bazooka.
Oh putain.
Mets ta cagoule, Steve.
Oh là là.
Non, je dis non à ça.
Ah, j'ai envie de me pendre, ça y est.
Mets ta cagoule, ouais.
Alors l'histoire continue sur les années 50, hein, comme on avait entamé dans la 2e partie du numéro 1, et on va voir un petit peu les relations entre les personnages se développer et en même temps se déchirer, c'est toujours très très bon. Je vais pas en révéler grand chose parce que c'est plus sympa de le découvrir plutôt que d'avoir tout spoilé à l'avance. Si vous avez pas accroché au premier, de toute façon vous accrocherez pas à la suite, c'est clair et net. Donc voilà, ceux qui ont été déçus par le numéro 1 n'allaient pas plus loin. Pour les autres, ouais, continuez, c'est tout bon. Le petit article de Jess Nevins, pardon, de fin d'épisode, c'est sur Edgar Allan Poe, article que j'ai trouvé un peu chiant, honnêtement. D'habitude c'est très bon, mais alors là je me suis emmerdé sur cet article-là, donc je voulais le signaler. Il y a une petite mention de... Ah ouais, je l'ai dit toujours, moi, c'est toujours très 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 instructif, mais là, celui-là, je le trouvais très chiant. Franchement, il nous raconte rien, je trouve.
Non, moi j'avais pas lu le premier, je suis pas fanat de ce type d'article, même si c'est vrai que ça peut être très intéressant, mais je... Voilà. Généralement, je passe à côté. Mais par rapport à ce que tu disais, ceux qui n'ont pas accroché au numéro 1, moi, personnellement, j'ai bien aimé, mais en fait, ce qui m'a un peu gêné, c'est le côté trop versé dans le fantastique.
Bah, c'était déjà vu pour.
Oui, 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 mais je trouve ça dommage justement parce que je trouve que Brubaker est meilleur quand justement il est plus terre à terre.
Ah bah pour une fois qu'il s'éloigne des carcans habituels, moi je vais pas lui en vouloir, bien au contraire. Qu'il teste d'autres choses, ça lui fera peut-être du bien.
Ouais, mais c'est au fait tu te rends compte que c'est un truc le coup des grands méchants toujours les mêmes qui invoquent des démons, c'est pas très original. T'as déjà vu ça sur Captain America aussi.
Non mais on a déjà vu ça plein de fois, mais
oui,
c'est le côté pulpy aussi, le pulpy fantastique, ça a toujours été comme ça aussi.
Ouais, mais par contre c'est dommage que ce soit toujours ces mêmes méchants qui reviennent.
Bah, là, il y a un côté Lovecraftien quand même, qui n'est pas du simple démon, quoi. Bon, je sais pas. Moi, je en tout cas, j'aime bien. Je suis embarqué pour la suite. Après, je sais pas. Peut-être que ça changera d'ici 2-3 épisodes, mais en tout cas, pour le moment, moi, je suis preneur de ça.
Oui.
Petite mention spéciale quand même pour Brubaker qui nous, comme d'habitude, nous fait une petite page avec ce qu'il a lu ou ce qu'il a vu dans le mois, des choses intéressantes qui se rapportent au thème du polar ou truc comme ça. Et il parle de Braco. C'est assez marrant. On voit que Braco a du succès aux États-Unis et sort aux États-Unis.
Très bonne série française.
Pour une fois, oui.
Moi, je l'ai pas vu.
Il y a pas que Plus belle la vie.
Oui, bah encore heureux.
Avec la première saison un peu supérieure à la deuxième, mais
bah, ça vaut pas Navarro. Hein.
Non.
Et putain, t'as vu cette troisième saison de Joséphine Ange Gardien.
Ouais.
Et puis
c'est quand même la meilleure. Le cliff à la fin et tout.
Ah non, bah, et puis dans la genre Joséphine Ange Gardien, il y a du cul quoi.
Non, pitié.
Les Cordiers.
Hein non, pitié, pitié.
Ouais, c'est pas grave, Steven t'offrira l'intégralité de Julie Lescaut.
Tout de suite, les garçons, hein. Ça représente bien l'international.
Ouais.
Montrer comment la France est avec Hélène et les garçons.
Voilà. Le soleil.
Voilà le summum de la série.
Passons à autre chose. Nono, tu avais un troisième titre.
Oui, alors c'est pas vraiment un titre, c'est pouf que je le reprenne. C'est Star Wars Dawn of the Jedi à l'épisode 0. En fait, c'est un guide qui présente un peu tout ce qu'il va y avoir dans cette future série Star Wars, qui risque d'être assez énorme, parce que Dawn of the Jedi, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va raconter en fait comment la Force a été découverte, comment l'ordre Jedi et l'ordre Sith ont été créés, etc. Ça se passe 36 000 ans avant la bataille de Yavin. Donc la bataille de Yavin, c'est la bataille où l'étoile noire explose.
Donc épisode 4.
Épisode 4.
Comment ça, épisode 4 ? Ah oui, épisode 4. Disons que je tâche d'oublier les épisodes 1 à 3.
Voilà, bah oui. Mais
qui pour moi n'existe pas. Ça
mais
n'existe
oui,
pas.
Mais on peut pas faire sans, malheureusement. donc,
sachant
voilà.
Que l'épisode 1 va ressortir en 3D là au cinéma.
Non, je suis désolé, on peut dire épisode 1, volume 2.
Oui, c'est le relaunch, effectivement. C'est jamais une bonne idée, en fait, hein, le relaunch.
Ouais.
Mais moi, j'hallucine quand même de ressortir le numéro 1 en 3D, là. Je ne comprends pas.
Et s'ils ressortaient le premier en le refaisant? Et puis le 2 et le 3, s'il faudrait qu'ils refassent.
Donc là, c'est vraiment un guide très complet. Il y a pas de, c'est pas un comics vraiment. Comme on a l'habitude d'en lire, ça présente les différents protagonistes, les différentes planètes, les différentes armes, etc. Il y a des illustrations, donc c'est...
Mais voilà, c'est du texte avec des images à côté, c'est pas un comics, quoi.
Voilà, c'est John Ostrander, qui est, le scénariste habituel de Star Wars.
C'est Yann Boursema qui fait les dessins qui sont magnifiques.
Voilà. C'est une encyclopédie, quoi.
Voilà. C'est une espèce d'encyclopédie il fait combien? Il fait une trentaine de pages à peu près.
Comme Marvel quand il sortait les fiches personnages dans certaines revues, quoi.
Voilà. Et là, ce qui est marrant, c'est que les Jedi, en fait, s'écrivent J-E apostrophe D-A-I-I. C'est l'ancienne appellation des Jedi de maintenant, en fait.
Bah oui, c'était dans les bars, là, quand ils se parlaient, ils disaient...
Ah, tu le fais bien. Donc voilà, c'est assez intéressant, ça apprend vraiment pas mal de trucs. Pour ceux qui veulent se lancer dans cette... Alors, je sais pas si ça va être une mini ou ou un ongoing.
Mais généralement maintenant c'est toujours des mini. Hein.
Ouais. Donc ceux
après,
qui
après ça peut, il peut y avoir une exception, mais généralement ils font des mini et ils font plusieurs mini si ça marche bien.
Voilà. Donc Dawn of the Jedi chez Dark Horse, l'épisode 0, ça vous fera une bonne introduction à la série derrière. Donc c'est on peut pas vraiment dire un check-it ou un buy parce que il y a pas d'appréciation à la fois scénaristique ou au niveau des dessins. Je dirais un buy pour les dessins parce que les dessins sont très chouettes. Après voilà, si vous à mon avis, c'est pas obligatoire de dire ça pour comprendre la série, c'est un plus.
D'accord.
Okay. Au rayon des ovnis, puisqu'on y est encore, hein, parce que c'est pas vraiment un comics.
C'est dans l'espace.
Oui, non, mais bon, voilà. Oui, enfin, c'était pas voulu pour. Putain, la vanne de merde. Oh, c'était pas voulu.
Voilà.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, c'est lui de la ventoline, s'il vous plaît.
Ah non, mais. Oh, le comics weekly pourri. Donc, au rayon des ovnis, The 12 numéro 9.
Ah, je peux lire aussi.
Oui, alors moi je l'ai pas lu parce que tout simplement il faudrait que je relise les 8 premiers, enfin même les 9 premiers parce qu'il y avait un numéro 0, voire 10 parce qu'il y avait un 0.5 aussi je crois. Et non, là j'avais pas eu le temps, donc mais bon, à noter que c'est sorti au bout de 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas.
C'est un petit peu de Watchmen d'Alan Moore de Strat.
What the? Oui, c'est un peu le
Watchmen de Straczynski.
Ah non, mais là c'est impressionnant quoi. Au moins on aura la fin. Il en restait 4 épisodes à sortir.
Et je sais plus, est-ce qu'on est à la fin de Rising Stars ou pas alors?
Oui, mais ça a été publié hein, la fin de Rising Stars.
D'accord.
Et pas en français.
Oui d'accord, elle va sortir en français.
Voilà.
Très bien. OK.
Voilà, donc je voulais noter que prévenir les gens qui n'auraient pas vu The 12 est sorti. Si vous l'attendiez encore au bout de 4 ans.
The 12 numéro 9.
Ouais, The 12 numéro 9.
Sur 12 donc, c'est ça hein.
Ouais. Et petite chose marrante, ils ont republié un Marvel Must Read, donc ces espèces d'épisodes, t'as deux épisodes dedans, un reprint à 5,99$, où tu as le 7 et le 8, qui est sorti cette semaine aussi, pour les gens qui les auraient oubliés ou qui les auraient
achetés. Ah, c'est vrai que c'est du Marvel en plus. J'ai oublié.
C'était du Marvel.
Mmh. Chris Weston.
Au dessin.
Ouais, qui était un petit peu long à écrire.
Il a surtout parti dessiner pour le cinéma, à faire des storyboards, puisque ça paye plus.
Ce qui est méchant aussi.
Ok, on continue. Sam.
Donc moi, ça sera ma dernière review. Invincible 88, Robert Kirkman au scénario, Ryan Otley au dessin.
Attends, je fais la review à ta place. C'est vachement bien, je ne veux pas trop en révéler, mais c'est vachement bien, achetez-le.
Ouais, c'est exactement ça.
Trop fort.
Mais disons que si je révèle, je spoil. Hein. Disons que je spoil, déjà je spoil l'issue de la ville trubitoire. Je spoil ce qui s'est passé dans les précédents épisodes, donc
ouais, moi, ça tout le monde le sait à force. Je veux dire, il a été remplacé, non, à force. C'est plus Marc, non?
Si.
D'accord.
Oh le blanc.
Non, mais alors donc je sais pas qu'est-ce que tu pourrais spoiler sur les anciens épisodes parce que j'en ai lu et je vois pas du tout.
Disons qu'à l'issue de la ville trumitoire, donc les vitrumites viennent s'implanter sur Terre. Mm-hmm. Dans les précédents épisodes, Allen l'extraterrestre mettait la main sur le virus anti-viltrumite. Et dans l'épisode 87, il débarquait sur Terre pour relâcher le virus.
C'est quand même un nom de merde, un Viltrumite.
Ouais, je suis rien. Sauf que le petit souci, c'est que l'ADN Viltrumite et humain sont tellement proches que il y a de bonnes chances que ce qui tue les Viltrumites nous tue aussi.
D'accord, c'est sympa.
Ouais, c'est sympa. Non, parce que surtout sympa, c'est la réaction du frère de Marc, Oliver, qui dit « Bon, grosso modo, les humains, on s'en tape. »
Ouais, en même temps, c'est normal. Il est pas humain. Ouais.
Oliver étant le Christopher d'Invincible.
Et l'épisode 187 se terminant sur l'arrivée de je crois que son nom c'est Trag, c'est le régent, c'est de la race des Viltrumites, qui est quasiment invincible, le mec, c'est un monstre.
C'est le général Krag, ouais.
C'est bien qu'il soit dans la série qui s'appelle Invincible, justement, s'il l'est vraiment.
Mais il l'est, hein.
Putain, vanne de pourri. Voilà, c'est ça, parce que j'ai plus de café.
Et donc, dans cet épisode, il se passe des choses.
C'est mieux.
Il y a plein de nombrés, par contre. Pour une fois.
Ok, donc ouais, un gros bail quoi.
Ouais.
Ouais.
Oh, complètement. J'adore le ouais mais hyper content de Sam's. C'est mais limite oui. Pervers, tu sais.
Ça fait tellement envie de lire du bon Kirkman comparé aux derniers épisodes de Walking Dead qui sont très très chiants.
Ouais. Je ne suis Walking Dead qu'au rythme français.
Ah non, attends, je suis désolé, j'ai lu les derniers épisodes de Walking Dead qui sont très bons.
Du 88 au 93?
Ah bah le dernier en tout cas, je sais pas si tu l'as lu. Le dernier sorti.
Oui, le tome 15, ouais, je l'ai lu.
En français.
Ah, en français, c'est le 14. Hein.
Non, mais d'accord, mais ah oui, non, mais alors donc on
l'équivalent
est...
du tome 15.
Ouais, bah, je sais pas, mais en tout cas, le dernier que j'ai lu annonce le début d'un premier de l'arc qui va arriver jusqu'au numéro 100, et là, il se passe un truc, quoi.
Voilà. D'accord.
Eh bien, merci.
Je sens des moments de flottement ce soir, c'est incroyable.
Non mais c'est pas mal, mais les épisodes qui suivent sont à chier. Y a rien dedans.
Oui, mais là maintenant ça y est, ça bouge quoi.
Ouais, bof.
D'accord, mais on parle de quoi là?
J'adore comment tu suis.
On va continuer et terminer avec le Red Lanterns numéro 6. Peter Milligan au scénario, Ed Benes au dessin. Alors c'est une fin d'arc, si on veut. Je sais même pas s'il y a d'arc sur Red Lantern. Je comprends pas trop comment c'est monté. Et on a le premier Red Lantern terrien.
Ouais. C'est qui d'arc?
Oh là, non, c'est nul. Non.
Bah, il y avait déjà un Red Lantern terrien. C'était le chat.
Oui, mais enfin, il était pas vraiment humain. Là, oui, c'est un Red Lantern humain, quoi. Bon, bah, ouais. Alors, d'un côté, on a ce Red Lantern humain qui va essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et en même temps, bah, de céder à la rage, hein. Et de l'autre côté, on a Atrocitus qui est en train de se rendre compte qui est en train de se faire défoncer par Blizz et qu'elle a réussi à ramener tout le monde autour d'elle et contre lui.
Voilà. Alors, moi, mon principal reproche, c'est pas vraiment un reproche, c'est qu'en fait, j'ai lu le premier de Red Lantern, j'ai pas lu la suite, et là, j'ai voulu lire le 6 parce que je me dis peut-être que ça va être un nouvel arc, donc je vais le lire. Et en fait, j'ai tout compris.
Et c'est pas passé grand chose, hein. On a eu beaucoup de moments où c'était Atrocitus qui partait dans un coin ou qui se rappelait un truc.
Bah là en fait, je me souviens dans le premier, donc c'était il y a 6 mois quasiment.
Oui, oui.
Bah c'était il y a 6 mois.
Bah voilà, c'était il y a 6 mois, donc on voyait déjà qu'il y avait les prémices de la révolution sur Ismolt. Et là, là on y est. Le Red Lantern terrien, bon, je m'en souviens pas dans le premier, mais là, il est là, mais.
De toute façon, c'est assez bien réexpliqué ce qui s'est passé. Donc.
Voilà. Et quand j'ai fini de lire, je dis bon ben voilà, en fait, j'ai bien fait de pas acheter la suite, quoi. J'ai bien fait de pas acheter le 2 du 2, 3, 4, 5. Parce que.
Ce que t'as manqué, c'est que Krona s'est barré. Et encore, c'est vite fait réexpliqué. C'est-à-dire qu'il était mort. Il était là, sur Ismolt, mort. Et puis au bout d'un moment, pouf, il était plus là.
Voilà. Par contre, je suis pas trop d'accord avec le fait que ce soit la fin d'un arc. Parce que
mais je sais pas, enfin, je comprends pas trop comment
Parce que la fin, quand même, appelle une suite directe, donc,
Bah, en même temps, un arc peut déboucher sur un autre arc. Sais pas. Je sais pas trop comment c'est monté. En tout cas, bon, le prochain, on va voir ce que ça donne. Ça peut être sympathique.
Le prochain peut être sympathique, ouais.
On a l'arrivée d'un personnage bien connu de l'univers des Green Lantern.
Voilà. On s'y attendait, plus ou moins, on s'est dit, ça va arriver forcément un jour ou l'autre, un truc comme ça.
Surtout. Vu que ce soit lui, c'est ça qui est intéressant, je pense.
Ouais.
Voilà. On verra. Mais, check it.
Ouais, check it, quoi. Moi, ce que j'ai vraiment peur avec tous ces Green Lantern, ces différentes sagas Green Lantern, c'est que le jour où ils nous font le premier crossover, bah, on soit obligé de tout lire pour comprendre, quoi.
Bah, le problème, c'est que surtout que Red Lantern ne s'intègre pas trop dans le reste de la continuité, même si Tony Bedard y a fait référence dernièrement dans New Guardians. C'est le seul qui a fait référence d'ailleurs à ce qui se passe parce que les Red Lanterns, honnêtement, ont disparu de la surface Green Lantern, quoi.
Mmh, complètement.
Je sais pas. Peut-être que là, il faudra un changement de scénariste parce que pour le moment, Peter Milligan n'avance pas à grand chose.
Ouais.
Je vais terminer puisque, bah, plus personne n'a quoi que ce soit, donc je vais terminer avec le... Ça veut rien dire ce que j'ai dit en plus.
Plus personne n'a quoi que ce soit.
Oui, non, mais c'est...
Si, moi j'ai une grosse perruque de couilles, et puis
voilà. Non, mais, oh là là, mais non, mais c'est la fin, là, ça se sent.
Ouais.
Green Arrow numéro 6,
sinon, on va te laisser finir tout seul, si vu que c'est toi qui enregistre.
Oh, allez, ciao.
Je dis encore Green Arrow, je suis désolé, t'es un des seuls. Keith Giffen au scénario, avec Dan Jurgens, qui fait aussi les dessins, et, qui fait en tout cas les roughs, puisque le dessinateur en dessous, c'est Ignacio Calero, avec Ray McCarthy à l'ancrage. C'est très compliqué, déjà. Là, c'est la fin du premier arc sur Green Arrow. Green Arrow qui se bat contre cette espèce de monstre de pourriture, de déchets toxiques avec Blood Rose qui est sa compagne. C'est la grosse baston. Green Arrow va bien sûr gagner. Mais on se rend compte qu'il est épié par quelqu'un qui lui en veut. Enfin, par des gens d'ailleurs qui lui en veulent.
Ça m'a l'air bien pourri quand même.
Non, enfin moi je trouvais ça sympa, ça se laisse lire quoi. Sur mon petit check-it. Et à partir du prochain numéro, c'est l'arrivée d'Anne Nocenti et Harvey Tolibao.
Ouais, bah ce sera peut-être d'un autre tonneau déjà.
On verra. Bon, je sais pas, moi pour moi c'est un check-it, ça reste sympa quoi. C'est... Il y a un petit côté old school, même si je suis pas super fan de cette nouvelle version.
Alors ça, tu vois, c'est comme dans les trucs, tu sais, qu'on te donne à bouffer et puis on dit, vous allez voir, il y a un petit goût de noisette, c'est pas de mauvais. Généralement, c'est que c'est dégueulasse.
Non, mais moi j'aime bien Dan Jurgens.
Le côté old school, je me méfie quand même.
Le côté old school de Dan Jurgens me plaît bien. Je veux dire, ce qu'il fait sur Justice League International me plaît, ce qu'il fait sur Green Arrow me plaît aussi, ce qu'il faisait avant sur Booster Gold, j'aimais aussi. J'aime bien Dan Jurgens, en fait.
Eh bien, libre à toi.
Non, mais voilà, juste un check-it, quoi. C'est pas essentiel. Le prochain numéro, donc, avec l'arrivée d'Anne Nocenti, ça pourrait peut-être être très sympa. Voilà, mais c'est tout pour cette semaine. C'est déjà beaucoup trop.
Oui. Finalement, on en a fait plus que prévu.
Oui.
On en a fait des caisses, on en a fait des tonnes, comme d'habitude.
Ouais.
Je remarque seulement que personne n'a parlé du Action Comics.
Mais je n'ai pas eu le temps de le lire.
Ah, puis moi je l'ai arrêté cette série donc.
Bizarrement, cette série n'est plus une priorité. C'est bizarre.
D'ailleurs, était-ce bien Morrison encore?
Bah oui, c'est toujours Grant Morrison et Andy Kubert au dessin.
D'accord.
Bien. Eh bien, on se retrouve donc la semaine prochaine.
Ouais, je voudrais juste dire un petit truc avant qu'on conclue. Voilà, je quitte Comic City. Non, je plaisante. Je vais faire.
Oh merde, j'y ai pratiquement cru.
Ah ouais, je sais.
J'allais déboucher le champagne. Non, bah écoute, faut savoir que je referme la bouteille.
Une fois n'est pas coutume, je voudrais remercier les visiteurs qui nous écoutent, qui nous lisent, parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à venir, à nous écouter. On a eu les chiffres. C'est impressionnant l'évolution que Comic City a connue, on va dire, cette dernière année. Je vais pas vous dire les chiffres parce que ça va pas forcément vous parler, mais vraiment merci parce que on a fait un énorme bond et c'est grâce à
c'est pas un bond là, c'est carrément un décollage en fusée quoi.
Voilà.
Mais en arrière.
C'est-à-dire qu'avant vous étiez trois, maintenant vous êtes plus que un à venir.
Voilà.
Merci. Merci à
vous. Et c'est Sam, c'est qui vient écrire les articles.
Merci de vous être rendu compte que.
Et on a eu également les chiffres par pays, et c'est ça qui est assez rigolo. C'est-à-dire qu'on est lu jusqu'en Suisse, rendez-vous compte.
Bon, je crois que t'allais nous annoncer un truc extraordinaire.
Non, mais il y a pas mal de gens qui nous écoutent aux États-Unis, en Angleterre.
Ouais. Non, mais on est numéro un à Taïwan.
C'est des choses qu'on avait déjà vues ça sur les premières émissions quand on regardait assez fréquemment les chiffres. C'est vrai que moi je les regarde pas beaucoup. Je m'occupe de faire les émissions déjà, c'est déjà beaucoup.
Alors on a un mec, on a des mecs qui viennent régulièrement du Burkina Faso, d'Estonie, de la Guyane, de Croatie.
Il faut prendre en compte aussi tous les détournements d'IP et je pense qu'il y a ça qui joue.
On est aussi juste après la choucroute en Allemagne.
Ouais. Et on est le premier site comics aux Philippines.
On est les premiers tweetés je crois juste après la reine d'Angleterre.
Ouais.
Oh là là.
Donc merci beaucoup.
Non, merci sincèrement.
C'est grâce à vous qu'on peut continuer à avancer.
Non, sérieusement, c'est motivant. C'est aussi ce qui fait que
quand on voit des chiffres comme ça, on se dit.
Essayer de se donner du mal, quoi.
L'objectif, c'est de dépasser Google. Hein. Je pense qu'on y arrivera cette année.
Non, mais sérieusement, c'est vrai que de voir comme ça m'écrire des articles, des fois jusqu'à pas d'heure.
Oui, je confirme.
Ou devoir monter les émissions, ou même déjà ne serait-ce que prendre du temps pour les enregistrer, c'est pas toujours évident et c'est quand on voit des chiffres comme ça que.
Voilà, c'est vrai que là,
on se dit qu'on fait pas ça pour rien, quoi. Voilà.
J'ai fait la queue toute une après-midi à Astro City pour apercevoir Umberto Ramos.
Juste pour en faire un article.
Voilà, c'est juste pour en faire un article. Voilà, ça m'a coûté, mais l'amour du métier n'a pas de prix.
Qu'est-ce que c'est beau.
Plus c'était quelqu'un qui voulait pas souhaiter la bonne année aux gens, puis maintenant il en lèche le cul en fin d'émission, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu la lumière pendant l'émission?
Ouais.
J'ai parlé de Dan Jurgens.
Voilà. Je me suis dit qu'à force
non, c'est la vocale,
je vais être gentil un petit peu.
Ah bah moi non. Voilà.
Et j'ai un fond de gentillesse en dessous du chapeau.
Donc ça veut dire qu'il l'a ôté en cette fin de podcast.
Ouais.
Pourtant il fait froid.
Ah bah oui, il neige.
Sur ta tête?
Mais c'est quoi ça? Ça se barre, mais c'est pas possible.
Une confusion habituelle.
Mais je sentais que t'allais faire une conclusion propre et j'ai eu envie de te la saloper.
Bon, ben, je crois qu'il va y avoir beaucoup de montage. Mais j'arrive même pas à articuler, c'est pas possible, quoi.
Ah, ben, c'est drôle, là,
oh, allez.
Non, mais pour la petite histoire, j'ai un problème d'isolation, là, dans la maison. C'est terrible. Je suis juste à côté de la porte d'entrée et j'ai le vent qui passe et je suis gelé. En
fait. Ah, on va tous sentir vent frais, vent du matin.
Vent
qui souffle au sommet des grands pins.
Veux-tu qu'on reparle des vents dont on parlait juste avant l'enregistrement, les vents à la Human Centipede? Hein?
Non, c'est plutôt la Human sans TP. Est-ce que c'était pourri, cette...
Bon, je crois que voilà, ce sera le mot de la fin.
Ah non! Bon, ah, bah, si.
Tu peux pas faire meilleure conclusion.
Non, je pense que tu peux pas.
Allez, on vous remercie encore une fois tous d'être toujours de plus en plus nombreux, comme l'a dit Nono. Tu m'as grillé la politesse, en fait, mais c'est pas grave.
Plus frais,
premier sur la fraîcheur. Non, c'était quoi la pub? C'était le truc sur la fraîcheur. Et voilà, ça me revient pas. C'est la fin d'émission, c'est n'importe quoi.
C'est frais, c'est fin, c'est quoi? C'est plante à fin, faites tourner.
Oui, bon, bah c'était pas ça, mais c'est pas grave.
On va arrêter là, parce que...
Oui, on va arrêter là. Sérieusement, c'est pas possible. On se retrouve donc comme d'habitude.
La prochaine suite de la conclusion, d'ailleurs.
Facebook, Twitter... Les commentaires sur le site sont ouverts, bien évidemment. Et les mails, l'adresse est podcast@comiccity. Et vous retrouvez tous les anciens épisodes, ceux qui ont tellement fait notre succès, comme on peut le voir
à travers les âges,
les chiffres.
Trouvez l'anthologie
sur iTunes. On va sortir un DVD spécial.
Ah putain, non mais t'imagines, on sortirait un CD anthologie Comic City. 25 CD.
Ben déjà, moi c'est simple, hein. Juste je garde tous les podcasts sur mon disque dur au cas où il y aura un problème sur le serveur, on ne sait jamais, ça peut arriver. J'en suis à déjà plus de 8 gigas.
Ah, ça m'étonne pas.
Enfin, 7 gigas 9, je crois. Pas 8.
Donc, et là, tu es très fatigué, là, tout d'un coup.
Oui, tu te dis, putain, tout ça, waouh. Ouais. Bref, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain Comics Weekly, très bientôt pour un Comic City, le Comic City du mois de février qui arrive. Et puis voilà, hein.
Bon, c'est très, dit bien. Bunny, c'est très très bien. Bravo.
Human sans TP, quoi.
Oui, voilà.
Ah, rendons à Bunny ce qui est à Bunny. Hein. Surtout, oui. Rendons-lui ça. Hein.
Non, mais je les sens.
Ah, tu fais ce que tu veux de tes week-ends. À la semaine prochaine, tout le monde.
Allez, au revoir, les gens.